causer, non, je prie de m'excuser, le caractère un peu bizarre. Les idées vont se dérouler les unes après les autres. Vous m'excusez, je n'ai pas une voix terrible, mais... je veux donc parler des universaux d'abord. Les universaux, je prends le mot dans le sens de Guillaume d'Ockham au XIVe siècle et je traduis sa définition. Un universel, c'est un projet de l'esprit qui s'applique à un grand nombre d'objets. Bon, alors il y a eu à cette époque-là la querelle des universaux, on a appelé ça le nominalisme, enfin bon, peu importe les détails historiques, c'est ce projet de l'esprit, un de ces projets de l'esprit que je veux étudier, qui sera le groupe, le projet groupe, et je vais montrer qu'il va s'appliquer à un grand nombre d'objets. Et je prétends même implicitement, sinon explicitement, que ça va être la meilleure façon de classer les théories scientifiques. Mais ça n'est pas du tout, ça n'est que dans certains cas que cet aspect est mis en évidence, et par conséquent, ça conduit à reclasser autrement les théories scientifiques, à casser la chronologie, et à faire peut-être oublier certaines évidences pour le but est de faire disparaître certaines évidences et les remplacer par certaines autres. Donc oui, un projet ambitieux, mais vous allez voir, je vais faire un simple catalogue d'applications diverses. Il n'est pas question, évidemment, de développer toutes les théories scientifiques en un seul livre. Alors, l'universel groupe, tel qu'il est conçu, c'est-à-dire ce que les mathématiciens appellent un groupe abstrait, remonte aux années 1870. Sophus Lee. Et il a été développé, Sophus Lee, avec son ami Felix Klein. Ça d'abord, mais avant le groupe abstrait, il y avait le groupe de transformation, Lagrange 1770, Abel 1826, Galois 1832. Ensuite, donc, comme sous l'influence de Sophus Lee a formulé la notion de groupe abstrait, vous savez, un ensemble avec une loi de composition qui a telle et telle vertu, et il était accompagné par les actions de groupe, qui, conformément au programme de Guillaume d'Ockham, applique cet universel à un grand nombre d'objets. Et très exactement, les objets géométriques sont les objets sur lesquels, auxquels s'applique un groupe, une action de groupe. Alors, Felix Klein disait, une géométrie, c'est une action de groupe. Je préfère dire, une géométrie, c'est un groupe. Alors que c'est assez important de bien faire cette différence. Je commence par la géométrie euclidienne, construite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en utilisant les déplacements des points de l'espace. Bon, les déplacements sont considérés comme une notion intuitive dans les éléments d'Euclide, et il est évident, ça n'est pas écrit, mais c'est évident qu'il constitue bien un groupe. Groupe de permutation. Ce groupe de permutation, je vais donc l'appeler groupe d'Euclide. Mais il existe un groupe d'Euclide abstrait. On oublie les points. Ils nous ont servi à construire le groupe. Eh bien, messieurs les points, au revoir et merci. Nous avons le groupe qui va devenir l'objet concret. Et d'ailleurs, personne n'a jamais pu expérimenter sur un point de l'espace. Bon, mais il y a quand même, pour les géomètres, en particulier pour Euclide et pour d'autres, ils considèrent quand même des objets qui ont un rapport avec les points, les couples de points, les triplets de points. Et l'action du groupe classe les couples de points. Deux couples de points sont de même classe. S'il y a un déplacement qui amène le premier sur le second. Donc, on crée des objets nouveaux qui sont les classes. Les classes du groupe d'Euclide. Et les classes de coupe de points, qu'est-ce que c'est? Ce sont les distances. Les mathématiciens disent, avec une certaine inconscience, qu'un espace normé, c'est un espace où on a défini une distance. Et on dit que la distance est un nombre. Mais là, il n'y a pas de nombre. Une distance, c'est une classe de couple de points. Cette distance-là, ce n'est pas 33, ce n'est pas moins, c'est pas 55, c'est cette distance-là. Bon, de même, les triplets de points, ben, ça va représenter les cas d'égalité des triangles. Enfin, ce qu'on appelle indûment triangles égaux, ce sont des triangles de même classe pour l'action du groupe de Euclide. Et le troisième cas d'égalité des triangles, c'est une merveille, à savoir s'il y a un déplacement qui appelle A sur A' et B sur B', un autre qui amène B sur B' et C sur C', et un troisième qui amène C sur C' et A sur A', et bien il y en a un seul qui a ces trois vertus à la fois. Et donc c'est une, on peut prendre ça déjà comme une axiomatique du groupe de l'action du groupe de Q sur les triples de points. Le groupe d'Euclide fait apparaître aussi des notions, une notion importante, c'est la notion de régularité. Vous prenez un polyèdre, par exemple. Eh bien, comment peut-on définir la régularité d'un polyèdre? Eh bien, c'est qu'il y a des déplacements, des éléments du groupe qui agissent sur le polyèdre sans le changer. Bien entendu, ça suppose un certain nombre de conventions qui sont d'ailleurs un peu variables. Mais la régularité du polyèdre, c'est donc un sous-groupe du groupe d'Euclide. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, je poursuis un peu, mais vous voyez, il y a deux notions qui apparaissent en dualité, classe et régularité. Sur ta régularité, parce que plus la classe est grande, plus la régularité est petite, et inversement. Et classe et régularité, ça va s'attendre à toute action de tout groupe. Les classes d'une action de groupe peuvent s'interpréter en compréhension et en extension. Comme c'est vu, c'est expliqué dans la logique de Port-Royal, 1662. Et c'est aussi expliqué par Aristote. Mais lui, les classes dont il parlait, c'était les espèces. C'était les espèces vivantes. Ces classes, c'était une taxonomie. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est qu'une autre géométrie était entreaperçue au VIe siècle concernant les figures semblables. Est défini par un groupe, le groupe des similitudes, que j'appellerai, pour des raisons évidentes, groupe de Thalès. Le groupe d'Euclide est un sous-groupe invariant du groupe de Thalès. Pour le groupe de Thalès, il existe une seule classe de couple de points distincts. Ceci permet de définir le rapport de deux longueurs qui appartient au groupe quotient Thalès sur Euclide. C'est ainsi qu'on peut mesurer les distances après avoir choisi une unité. Les Grecs disaient métronome, bien sûr. Mais attention, la nature ne connaît pas le groupe de Thalès. On peut déplacer des atomes, des morceaux de bois. On ne peut pas les dilater ni les contracter. On ne peut pas contracter les mouches et les éléphants. Donc, ce groupe de Thalès n'est pas naturel. On rencontre cependant quelques objets qui possèdent une régularité thalésienne qui n'est non euclidienne. C'est un signe certain de leur origine. Leur origine ne peut pas être naturelle. Elle est donc artificielle. Exemple, les coquilles que les bigorneaux savent construire grâce à leur art artificiel, leur art surnaturel. Puisqu'il s'agit d'un surgroupe du groupe naturel qui est le groupe coquille. Alors nous allons essayer de glisser au niveau de la pensée des bigorneaux. Mais, je vais revenir au IIIe siècle, et un contemporain d'Euclide a utilisé les objets euclidiens qui ne sont pas constitués de points, qu'on ne peut pas constituer avec des points. Le géomètre en question, c'était Archimède. Et les objets euclidiens en question, je vais les appeler les moments. Moments, il y a tout un vocabulaire assez ambigu et variable. On parle de force, de moments de force, de système de force, de torsion, etc. Mais tout ça, ça constitue un seul objet euclidien. Un moment peut se définir par son travail dans un déplacement virtuel infinitésimal. Alors, le mot infinitésimal est à Lagrange 1790. Déplacement, autrement dit, un moment est un tenseur défini sur le. On va entendre mieux. Est un tenseur défini sur le groupe d'Euclide en son élément neutre. Un tenseur, une informe. Un élément du dual de l'algèbre de Lie, comme disent les géomètres. Eh bien, cette notion de moment, définie sur le groupe d'Euclide, s'étend à tous les groupes qui possèdent une structure, différentielle convenable, une structure infinitésimale convenable. Je parlerai des groupes diféologiques. Bon, il y a une axiomatique cachée derrière que je ne vais pas développer. Oui, ça résonne un peu. Merci. Il y a une structure diféologique, ça se trouve dans les groupes de Lie, mais ça se trouve aussi dans des groupes de dimension infinie, qui n'ont pas, même dans des cas où l'algèbre de Lie n'existe pas, mais le dual de l'algèbre de Lie existe. Et moment existe. Donc c'est une notion très importante, très fondamentale, même pour la physique, je vais en parler bien davantage. Alors, le groupe a une action sur ces moments, qu'on appelle action coadjointe. Qui fait rentrer les moments en géométrie euclidienne, pour commencer. La statique, selon Archimède, les leviers ou les corps flottants, se formule si un corps est en équilibre, la somme des moments qu'il subit est nulle. Le moment forme un espace vectoriel. Ce principe d'Archimède implique donc l'action coadjointe dans la physique de la matière. Alors, je vous signale un intéressant théorème du XXe siècle, c'est que chaque classe de moments, chaque classe coadjointe de moments, possède une géométrie symplectique invariante. Une nouvelle géométrie qui concerne que les classes coadjointes et qui est faite avec un groupe, le groupe des symplectomorphismes, qui est un groupe de dimension infinie. Je prends un exemple, je prends une force toute seule, la poussée d'Archimède sur un bateau au port. Alors, quelle va être la classe la classe coadjointe? Eh bien, ça sera une variété symplectique de dimension 4. On peut s'appréhender comme l'ensemble des droites orientées, transmettant chacune une force de même intensité que la force initiale. Mais il y a un autre exemple que nous rencontrons dans la nature. Nous ne rencontrons pas de points, mais nous rencontrons des rayons lumineux. Nous rencontrons des droites. Et les rayons lumineux sont, tout le monde le sait, sont orientés. Par conséquent, la variété des droites qui est portée par la lumière, et bien celle-là, elle va jouir d'une structure symplectique, d'une géométrie symplectique d'origine euclidienne. Alors, nous allons faire un peu de géométrie symplectique de la lumière. Chaque classe euclidienne de rayons lumineux est caractérisée par quelque chose qui correspond à l'intensité de la force, dans la métaphore archimédienne. Cette grandeur, c'est la couleur qui devient ainsi mesurable. Quand un rayon lumineux monochromatique traverse un instrument d'optique, il en ressort avec la même couleur et la correspondance entrée-sortie est un symplectomorphisme local, conserve la forme symplectique. Ce fait est connu des opticiens sous le nom de théorème de Lagrange, mais je n'ai pas vu où il se trouvait dans Lagrange. Enfin bon, vous pouvez me croire, c'est vrai. Mais, et ça marche aussi bien pour les systèmes dioptriques, les verres de lunettes, que pour les systèmes catadioptriques, les miroirs ardents de Syracuse, ou les télescopes. Nous avons toujours cette conservation synthétique à travers la seconde optique. Mais il y a un phénomène gênant qui se produit. On ne peut pas concentrer la lumière sur un rayon lumineux. Si on voulait faire ça, on prend deux trous l'un derrière l'autre. On peut passer là, mais il se passe quelque chose ici qui s'appelle la diffraction. Là, les rayons qui sortent là font un espace, une variété de dimension 3, dimension 2. Mais on peut donc concentrer la lumière sur des variétés de dimension 2, mais pas sur toutes. Si vous prenez deux formes, et vous dites comme ça, je vais concentrer la lumière sur tout ce qui traverse, non, ce qui est dans le plan, bien, ça ne marche pas, il se produit encore de la diffraction. Autrement dit, les variétés de rayons lumineux sur lesquels la lumière peut se concentrer, ne sont pas n'importe lesquels, eh bien, la définition est symplectique. Et c'est ce qu'on appelle les variétés lagrangiennes. Conséquence, ces choses-là, pour l'opticien, c'est un faisceau lumineux. Donc, quand un faisceau lumineux entre dans l'instrument d'optique, Lagrangien, il ressort Lagrangien puisque la définition est symplectique, et donc il ressortira comme faisceau lumineux. C'est l'essentiel de l'optique pratique. Un autre exemple, vous voyez une tasse, vous pouvez peut-être essayer de le faire là, mais vous la mettez au soleil, il y a la tasse, les parois de la tasse forment un instrument d'optique, un instrument catadioptrique, et la lumière qui est déviée va tracer la section du fond de la tasse avec une variété lagrangienne, et ça crée des courbes rebroussées qu'on appelle les caustiques. Enfin, parfois rebroussées, on ne dure pas. L'existence acoustique est aussi une propriété synthétique de la donc euclidienne en fait, de la lumière. Mais nous avons négligé jusqu'ici une autre grandeur caractéristique des classes de rayons lumineux. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une métaphore archimédienne, j'avais pris une force, disons une corde tendue. Mais on peut mettre aussi une torsion. Et ça va donner encore une variété synthétique de dimension 4, mais qui ne sera pas la même. Eh bien, cette torsion, droite ou gauche, va devenir un objet optique. Eh bien, cet objet optique, on peut le mesurer, et il s'appelle H-bar. Alors, c'est une petite grandeur, comme chacun sait, une petite grandeur, mais elle a un rôle fondamental, qualitatif. L'espace des rayons lumineux se découpe en deux nappes, en deux composantes connexes, si on veut. La lumière se partage en deux états de polarisation circulaire, à droite et à gauche. Et dans les années 1810, Augustin Fresnel a séparé la lumière naturelle en utilisant la biréfringence rotatoire des prismes de quartz. Il mettait 5 ou 6 prismes les uns derrière les autres, et avec ça, il obtenait une séparation de quelques millidifférences. Et dans la lumière ordinaire, sortait deux rayons polarisés dans la droite et l'autre à gauche. Autrement dit, l'état naturel originelle de la lumière, c'est polarisation circulaire. Polarisation rectiligne, c'est tout à fait autre chose, c'est une superposition quantique que je n'ai pas évoquée ici. Alors, une autre remarque, eh bien, j'ai parlé de torsion et de torsion et de force, de H-bar et de couleur, et bien en faisant agir le groupe de Thalès, je vais obtenir une proportion que je vous décris. H-bar divisé par couleur égale torsion sur force. Ce qui me dit que la couleur égale H bar sur longueur. Et les gens qui connaissent la mécanique quantique savent qu'un H-bar divisé par une longueur, c'est une impulsion. Donc la couleur du photon de la lumière, et j'ai prononcé le mot trop tôt, la couleur de la lumière, c'est l'impulsion de l'atome de lumière, tel que le concevait Newton, et qu'on appelle maintenant, disons, photons, mais c'est des photons non relativistes, enfin, c'est peu importe. Et du coup, H bar, ça va être aussi une grandeur, en continuant les règles de droit, c'est une grandeur qui va être le tournoiement ou le spin du photon. Il est le même pour tous les photons, quelle que soit leur couleur. voyez, on trouve simplement avec des objets, deux objets élémentaires, Thalès et Euclide, on trouve des choses assez particulières, assez précises sur l'optique. Bon, j'ai pas besoin d'optique pour l'instant. Cette fracas, permettre de numériser le groupe d'Euclide. Alors, numériser le groupe d'Euclide, ça avait commencé avec Pythagore et son merveilleux théorème qui numérise l'angle droit. Ça a continué avec Lagrange. Lagrange qui a inventé vers 1750 les système de trois axes de coordonnées orthogonaux que l'on dit annuellement cartésien. Il ne figure pas dans la géométrie de Descartes, mais il figure dans le jeune Lagrange avait proposé de faire ça. Et du coup, il a créé ce qu'on appelle, la géométrie analytique. Soyons plus précis, traduire en langage actuel. Eh bien, nous savons construire, numériser le groupe d'Euclide, c'est construire un groupe fait avec des nombres et qui va être dit déclaré isomorphe au groupe d'Euclide. Ce groupe, c'est un groupe de matrices. Et il utilise comme opération que pour la définition de la multiplication des matrices, on utilise que les quatre opérations connues depuis longtemps, mais dont la mathématisation n'a été achevée que dès le début de l'année. Et après avoir construit la géométrie analytique, Lagrange a construit la mécanique analytique. Bon, la mécanique, étymologiquement, c'est la science des machines. Mais elle est devenue science des mouvements grâce à Kepler, qui a fondé la mécanique céleste, qui a trouvé la notice du grand horloger de la nature, 1609-1621. Alors, pour la développer, il va falloir inclure le temps, et on va avoir un nouveau groupe, qui s'appelle groupe de Galilée. Groupe de Galilée qui agit sur l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? C'est l'ensemble des événements, couple point-instant, bon, qui ne sont pas plus concrets que les points de l'espace euclidien. Et groupe de Galilée, qui est aussi isomorphe, donc un groupe de matrices standardisé. Alors, dans la géométrie euclidienne d'Archimède, un moment non nul interdisait l'équilibre, donc produisait le mouvement. En géométrie galiléenne, un moment sera associé à chaque mouvement de chaque chose. Chaque mouvement de chaque chose va transporter, de chaque chose isolée, hein, c'est sous-entendu, va transporter un moment galiléen. Et d'ailleurs, c'est l'origine du mot moment, c'est un doublet latin, momentum, movimentum. Moment, mouvement. Et les moments engendrent, c'est évident, héréditairement, un moment sur chaque sourd. Il y a un sous-groupe du groupe de Galilée que nous subissons et que nous croyons bien connaître. Il est constitué des translations temporelles. Il y a 5 minutes, dans 50 ans, etc. Ce groupe, nous allons l'appeler Chronos. Le groupe Chronos, nous avons des machines pour en découper des sous-groupes, des chronomètres. Et autres oscillateurs. les rythmes, éléments essentiels de toutes les musiques, c'est fait avec des sous-groupes, des emboîtés du groupe Provence. Pas une longue discussion avec Alain Weinstein concernant ce sujet. Mais je pensais dans les détails, bien sûr. Alors, chose très importante, c'est aussi Chronos qui définit l'espace. Un point immobile dans l'espace, un point d'espace, qui survit. Immobile dans l'espace, c'est une classe d'événements sous l'action de Chronos. Une classe sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure. Chaque mouvement de chaque chose étant pourvu d'un moment gaïen, il possède aussi un mouvement induit sur Chronos. Un moment induit sur Chronos. Bien, qu'est-ce que c'est que ce moment? C'est l'énergie. L'énergie est définie. Mais cette énergie, ça n'est qu'une partie émergée, si j'ose dire, de l'iceberg moment. Et pour découvrir les 90% qui restent, eh ben, il faut un peu travailler. Il faut envisager d'autres sous-groupes. C'est ainsi qu'on peut faire apparaître l'impulsion. Et le tournoiement, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos des photons. Et qu'on peut retrouver le centre de masse sur lequel travaillait déjà Archimède. Quand deux choses se rencontrent, elles mettent leur moment en commun. Quand elles se séparent, elles reprennent chacun leur moment, mais elles n'ont plus en échanger une partie. Enfin, du marivaudage, c'est un phénomène assez courant. Mais le moment total reste rigoureusement constant. C'est pourquoi nous manipulons le moment avec adresse et avec précision et avec prudence quand nous courons, quand nous marchons, quand nous courons entre les obstacles. Quand nous prenons un escalator, ou que nous quittons, quand nous conduisons une voiture, les 10 composantes du moment sont toujours là, et nous tournons. En particulier, je vous signale que si nous rentrons dans un platane, ce n'est pas du tout l'énergie qui va nous faire du mal, c'est l'impulsion. L'énergie, ça va augmenter la température de notre corps d'un dixième de degré, c'est très supportable, mais l'impulsion va fracasser notre crâne, contre le pare-brise, contre le platane. Il faut donc faire bien attention à ne pas parler exclusivement d'énergie. Mais il va se passer un horrible scandale. Horrible scandale. Le groupe Chronos n'est pas ce groupe invariant du groupe d'Euclide. La géométrie galiléenne, du groupe de Galilée, excusez-moi, le groupe de Galilée. La géométrie galiléenne ne permet pas de distinguer ce sous-groupe, une sorte de bobine. Chronos et l'espace qui va avec sont donc subjectifs. L'espace dans lequel vous vivez, c'est vous qui avez choisi. C'est celui qui respecte votre confort. Vous acceptez parfois de changer de chronos, d'ailleurs, de quitter l'espace de votre maison pour habiter celui d'un train, d'un avion, d'une autoroute. L'expression classique « espace-temps » est donc subjective, elle aussi. Pour respecter la géométrie, il faudra l'éviter. Les physiciens disent « univers ». On disait, pendant longtemps, on a parlé du continuum espace-temps. C'est-à-dire le continuum, enfin bon. Disons univers. De même, l'énergie, moment du groupe Chronos, est tout aussi subjectif que Chronos lui-même. l'énergie d'un mouvement que vous faites dans un train, c'est pas du tout la même pour les observatrices qui vous regardent depuis la campagne environnante. Alors, d'où nous vient l'illusion d'un espace absolu? J'ai discuté longuement avec des professeurs de mécanique, etc., qui disent, nous habitons le vrai espace. C'est une illusion, il faut un gros effort pour s'en débarrasser, mais l'origine, le mot géométrie nous le suggère, c'est notre filiation terrestre. Née du tumulte et de la fureur, notre planète, elle a acquis progressivement une régularité presque parfaite. Et le chronos de tout le monde, comme on dit, ce n'est que cette régularité de la Terre. L'immobilité, c'est une mobilité terrestre. C'est un fait général, la Terre n'est pas unique dans l'univers, c'est un fait général, une chose isolée qui vieillit tend à acquérir une régularité de ce type-là. C'est un principe premier de la thermodynamique dissipative. Nous devons donc entrer en thermodynamique. Alors, je donne quelques précisions rapides. Le vieillissement de la chose peut se mesurer. Le résultat s'appelle entropie. Trotsman, 1877. Le second principe de la thermodynamique nous affirme que cette entropie ne peut jamais décroître. Et le premier principe? Le premier principe, il est contenu dans un principe 10 fois plus précis, la constante du moment galiléen. Celle dont je vous ai déjà parlé. Le moment galiléen est une constante avec ses 10 composantes. La croissance de l'entropie est donc lié par cette constance. Les amateurs de calcul des variations sont tout contents et pour trouver l'entropie maximum, il va falloir utiliser un multiplicateur de Lagrange. Un multiplicateur de Lagrange, caractéristique de tout état final, que je vais écrire bêta. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bêta? Eh bien, il est en dualité avec le moment, avec l'espace vectoriel des moments. Il appartient donc à l'algèbre de Lie, du groupe de Cuve, ou du groupe de Galilée. Il peut donc se représenter comme un champ de vecteurs, pas n'importe lequel, les champs de vecteurs associés à l'action infinitésimale de l'élément bêta dans les lignes de Lie. Et mais l'exponentielle et puissance lambda bêta de ce champ de vecteurs, disons-les, eh bien, c'est ça qui l'entendrait au chronos de la chute. Les astres suffisamment vieux ressemblent à ce portrait, chacun avec son propre bêta. Mais le chronos associé est souvent un peu plus compliqué que ce que nous avions imaginé tout à l'heure, les planètes et les étoiles tournent. C'était là, la Terre tourne aussi. Le bêta de la Terre caractérise sa période de rotation. Le jour sidéral, 23h56. Cette rotation, la géométrie demande que ce soit celle d'un solide, même si la planète conserve une certaine plasticité et fluidité. Il y a d'ailleurs quelques atomes, les cyclones ou les séismes. Alors, la régularité euclidienne qui était dont nous avions parlé en oubliant la rotation, elle est cassée. Et ça produit des effets mécaniques paradoxaux. Le gyroscope de Foucault, 1852, qui permet de mesurer la durée de la du jour sidéral dans une cale obscure, les alizés, les 40e rugissant et autres répartitions de l'atmosphère terrestre. Heureusement, la rotation de la Terre ne gêne pas les musiciens dans leur travail. Mais c'est pas tout. C'est pas seulement la durée, c'est un quadrimetteur, ça a 10 composantes bêta.